Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans musique traditionnelle, j'ai le plaisir d'accueillir en studio, et c'est une première pour moi, Guillaume Schilling, qui est violoniste traditionnel, entre autres, et il nous expliquera tout ça. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour, merci de me recevoir Mathilde. Je suis honoré d'être le premier que vous interviewez
en studio,
en direct.
Oui, voilà, on va voir comment ça va marcher. Et puis bien sûr, il y a Armand aux manettes qui nous permet de pouvoir faire cette émission. Bonjour Armand.
Bonjour Mathilde, bonjour Guillaume.
Oui, merci.
Alors aujourd'hui, tous les trois en studio, on va cette fois-ci pas forcément commencer par un morceau, mais plutôt par vous présenter Guillaume, d'où vous venez, qui vous êtes et comment vous avez rencontré la musique traditionnelle et puis le violon, de ce que je sais.
Oui, alors moi, comme mon nom l'indique, je ne viens pas, je suis pas auvergnat de souche.
Schilling, c'est pas auvergnat.
Non, voilà, c'est plutôt alsacien.
D'accord.
Même si dans toute famille, il y a bien un côté auvergnat, donc quand on remonte bien, bien loin. Mais je suis né à Aurillac, toutefois, et en fait, on est plutôt une famille de musiciens, quand même, en commençant par mon grand-père Schilling. Et mon père, en arrivant dans le Cantal pour le travail, a joué de la guitare et joué de la musique plutôt américaine ou de la... Voilà, et puis aussi un peu de musique folk. Mais en arrivant dans le Cantal, il s'est aperçu qu'il y avait une tradition qui renaissait, notamment avec des instruments locaux, accordéon, cabrette, vielle... Et violon, justement. Et donc, il s'est mis au violon à cette occasion-là. Voilà.
D'accord. Il avait quel âge, à peu près, quand il s'est mis au violon?
Ah, il devait avoir une trentaine d'années, je pense, ou 35. Voilà.
Bon, c'est bien. J'aime bien le faire remarquer aux auditrices et aux auditeurs.
Oui.
C'est qu'on entend souvent qu'il faut commencer un instrument très, très tôt. Même peut-être avant la naissance. Et en fait, y a quand même pas mal de bons musiciens qui ont commencé sur le tard, avec une autre maturité.
Tout à fait. Moi, j'ai animé des ateliers de violon sur Aurillac avec des gens qui avaient tout âge. Et on s'aperçoit qu'avec des personnes motivées qui aiment la musique et qui aiment partager, ça vient très, très bien, quoi.
Donc du coup, vous, dès le départ, en étant sur Aurillac, vous avez baigné dans la musique traditionnelle, dès petit?
Oui, assez petit, parce que mes parents m'amenaient dans les bals. Alors voilà, donc je me suis imprégné petit, même si on était là juste pour passer entre les danseurs, leur faire des croche-pattes. Mais sinon, voilà, bien sûr, j'étais imprégné de ça. Après, c'est vrai que moi, on a fait, avec moi et mes sœurs, on a fait un cursus classique de musique, à l'école de musique d'Aurillac, au conservatoire. Rien de bien passionnant, surtout quand on fait plus de solfège que d'instruments. Donc, ça n'a pas été forcément des années faciles.
Alors justement, comment vous avez fait? Est-ce que c'est parce que votre père était violoniste dans un contexte traditionnel et que vous saviez qu'il y avait autre chose comme musique que vous avez continué? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils avaient été dégoûtés par ce cursus où on fait beaucoup de solfège et pas assez de musique.
Oui, oui. Moi, j'ai failli arrêter vers l'âge de 13 ans, je crois, à peu près. Alors c'était le début de l'adolescence. Et donc, j'ai été quand même rattrapé de justesse par mon père, qui m'a conseillé d'apprendre un ou deux morceaux comme ça d'oreille, ce que je n'avais jamais fait. Et c'était deux bourrées, je crois. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, une fois que mes doigts ont suivi un peu ce que j'avais dans la tête, ça a été une sorte de révélation, quoi. Voilà.
Ah, c'est intéressant, ça veut dire que à l'âge de 13 ans, vous faisiez du violon depuis combien de temps?
Oui, depuis 5-6 ans.
D'accord, et vous faisiez que par partition?
Oui,
sans,
oui. Oui, parce que même si mon père ou des amis de mes parents faisaient de la musique trad, donc d'oreille, moi, je regardais ça de loin, en fait. Donc, j'ai jamais été tenté de les rejoindre. Par contre, bon, j'ai un peu d'oreille, donc je pense que les sonorités, les thèmes, tout ça rentrait bien dans mon esprit. Mais malgré tout, quand on vient d'un cursus en 100% partition, voilà, on on a beaucoup de mal à passer. Voilà, il faut quand même plusieurs semaines. Par contre, une fois que c'est fait, bon, voilà, on s'aperçoit qu'on a quand même une liberté assez grande pour la suite, quoi.
Bah, c'est surtout que vous avez les deux, du coup. C'est un peu comme deux langages.
Ouais, j'ai les...
que vous aviez, oui. Vous savez à la fois lire et à la fois attraper d'oreilles. Moi, je trouve que c'est très
oui,
très
oui,
riche.
Tout à fait. Même si lire la musique, moi, j'ai plus ou moins abandonné. Donc, bien sûr, je sais lire à peu près la musique. Mais depuis que j'ai découvert la musique d'oreille, ça ne m'intéresse plus du tout de regarder une partition. Donc, voilà.
Vous ne vous en servez même pas pour noter, par exemple ?
Non, très, très rarement. En fait, quand je note pour me rappeler de certains morceaux, je note plutôt des noms de notes, la, do, si, voilà. Donc oui. C'est assez curieux, effectivement, mais
d'accord. C'est intéressant.
Après, voilà, j'ai fait une sorte de réaction aussi à tout ça.
Est-ce que, effectivement, est-ce que c'est parce que vous aviez un peu souffert dans cet apprentissage du solfège que vous vous êtes dit, non, maintenant, je pense complètement à autre chose et que vous n'arriviez pas... peut-être à analyser les deux, parce que
oui. Bon,
moi je trouve ça super enrichissant d'avoir les deux, mais et que je peux comprendre que de passer de l'un à l'autre c'est très compliqué, parce que moi j'ai essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire que je me suis mise à lire une partition et j'avais l'impression que c'était ailleurs dans la mémoire, j'ai l'impression que c'était vraiment une autre forme de cerveau qui fonctionnait, c'était pas au même endroit parce qu'il fallait vraiment l'entraîner.
D'ailleurs, je pense que c'est scientifiquement prouvé, c'est que ça se passe pas au même endroit. Donc après, on se retrouve dans la musique, la musicalité peut-être, mais ça passe pas par les mêmes canaux. Donc moi, c'était plutôt effectivement une réaction. Après, moi, ce que j'ai tiré de la musique classique, c'est un petit peu d'aisance dans l'archer et puis dans les doigts, mais j'aurais préféré m'en passer, enfin, peut-être
couper
plutôt le cursus classique et puis voilà, accéder tout de suite aux musiques populaires.
Alors, je vous rassure, chères auditrices et auditeurs, les manières d'enseigner la musique sont très différentes aujourd'hui, enfin,
oui,
je
voilà.
L'espère. Je sais qu'aujourd'hui, les écoles de musique, les conservatoires font beaucoup d'efforts pour justement arrêter cette méthode très rigide où on demande à faire 2 ans de solfège avant de commencer un instrument, ouvre aussi les portes à des musiciens plus âgés. Il n'y a plus une barrière d'âge pour faire d'un instrument. Et donc, c'est accessible, hein, c'est accessible à plusieurs personnes. Et puis, si un système ou un conservatoire n'accepte pas, il y a toujours d'autres façons. Ça peut être à l'oreille, ça peut être la musique traditionnelle, ça peut être la musique irlandaise que vous avez faite, la musique klezmer, je ne sais pas. Il y a vraiment diverses sortes de musique et il n'y a pas qu'une façon de l'enseigner ou de l'apprendre.
Oui, d'ailleurs, à la fin de ma période à l'école de musique d'Aurillac, ça commençait à s'ouvrir et c'était plutôt rassurant. Mais bon, moi j'avais déjà fait ma partie, quoi.
Vous aviez déjà choisi. Est-ce que vous avez quand même gardé de cette période-là des musiciens avec qui vous jouez toujours, qui auraient peut-être, qui seraient passés du côté obscur de la force comme vous ?
Non, pas que je me souvienne. J'ai peut-être croisé 2 ou 3 personnes, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens avec qui j'étais en école de musique qui ne font plus du tout de musique, la majorité des gens. Donc
vous êtes un rescapé.
Oui, et puis c'est là qu'on voit que, heureusement, que cette institution commence à se poser des questions sur elle-même, parce que voilà, il y a d'autres pays où les gens apprennent la musique et continuent à en faire toute leur vie.
Oui, et pas parce que ce n'est pas forcément... une lignée professionnelle. Est-ce que vous en faites maintenant une profession de la musique ?
Non, et j'ai toujours un peu résisté à ça parce que, bon, bien sûr, j'ai été attiré. Donc, par le passé, dans les années 2000, j'ai passé plusieurs années à jouer avec un groupe klezmer, avec des bons copains, un groupe qui s'appelait Glick.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que la musique klezmer ?
Donc, la musique klezmer, c'est une musique qui a été... qui est issue du peuple juif d'Europe de l'Est, voilà. qui jouaient tout un répertoire qui sont issus de cérémonies telles que les mariages, les circoncisions, les décès, voilà. Et donc qui ont été remis au goût du jour par notamment des Américains, enfin des émigrés américains. Et le revival du klezmer date des années 70-80, quoi, voilà. Et il y a eu un gros boom dans les années 2000. Là, ça commence à se tasser un peu, mais voilà. Nous, on était en plein dans la vague, et c'est vrai que là, moi, j'ai passé une année où j'ai joué avec les copains qui étaient tous intermittents. Moi, je les suivais sans l'être, et c'était par choix. Voilà, et je regrette pas ce choix.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous jouer un morceau de musique klezmer pour qu'on entende?
Oui, bien sûr, bien sûr, avec plaisir.
Présence à Figeac 97.7.
Donc il s'agit d'une marche nuptiale de Transylvanie, une région proche de la Roumanie.
Une marche nuptiale de Transylvanie jouée par Guillaume Schilling en direct des studios de Radio Présence Figeac. C'est quand même plutôt sympa, n'est-ce pas Armand?
Très sympa.
Merci.
Parce qu'en général, on fait plutôt passer des CD, mais cette fois-ci, on a le musicien ici, entre nos murs. Voilà. C'est très appréciable. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors justement, où est-ce que vous résidez en ce moment? D'où est-ce que vous êtes venu?
Ben alors moi, c'est assez simple, je suis aux confins de trois départements, le Cantal, l'Aveyron et le Lot, voilà, pas loin de Casseville.
Alors comment vous faites pour choisir? Vous avez un pied dans l'un, une
voilà,
dans
l'autre?
Voilà,
c'est ça, je parcours les balles dans les trois départements, et c'est agréable justement de voir un peu les cultures différentes, parce que même si ce sont des départements proches, il y a des façons de faire différentes et des répertoires différents, le Quercy, le Rouergue, l'Auvergne, voilà.
Donc niveau des terroirs, mais vous êtes aussi aux confins de régions différentes également.
Ah oui, oui. Et pour cause, puisque j'habite une commune qui s'appelle Saint-Santin et qui est partagée en son milieu par la limite entre l'Occitanie, enfin la région Occitanie, et la Rhône-Alpes. Voilà.
Il y a même deux églises dans le village, c'est ça, l'une
c'est
en face de l'autre.
Deux églises, deux cimetières, deux écoles. Voilà, il y a un terrain de foot qui passe.
Il y a un terrain de foot.
On peut marquer dans l'Aveyron ou dans le Cantal, selon l'équipe dans laquelle on est.
Justement, Armand m'en parlait il n'y a pas longtemps, hein, vous y étiez allé en vélo. Jusque là-bas.
Exactement, tout à fait. C'est vrai que quand on arrive sur la place du village en haut, on voit ces deux églises l'une en face de l'autre. C'est assez marrant.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont les mêmes horaires de messe?
Ah, il y a ces sujets à de multiples histoires, mais je pense que c'est. Maintenant, les gens se sentent bien les mêmes villageois, en fait. Voilà, c'est essentiel.
Ce serait justement là. L'idée de parler de guerre de clochers, là, justement, ils sont en face. Comme ça, ils ne sont pas trop loin.
Oui, c'est ça.
Alors, du coup, au niveau des répertoires que vous avez choisis, vous aviez votre père qui était plutôt dans le Cantal et l'Aveyron. Il s'était focalisé plutôt sur ce répertoire-là, où il avait ouvert et il prenait un petit peu ce qui passait. Comment
non,
c'était
effectivement, c'est surtout de la musique traditionnelle. D'ailleurs, plutôt d'Auvergne, hein, pas tellement de l'Aveyron. Parce qu'il y a quand même une frontière culturelle. Disons que voilà, c'est de la musique, surtout des monts du Cantal. Et ensuite, moi j'aimerais bien parler d'une région particulière qui est tout à fait au nord du Cantal, qui est à cheval sur la Corrèze et le Puy-de-Dôme. Ça s'appelle l'Artense.
Un plateau
très très joli. Je conseille aux auditeurs de repérer ça sur la carte et d'y aller prochainement.
On le voit depuis le Puy-Marie, d'ailleurs.
Voilà. Donc,
depuis le Puy-Marie, on voit l'Artense et le Césalier.
Voilà, très belle région qui a produit des violoneux, comme on appelle, c'est-à-dire des joueurs populaires de violon. Et donc, le répertoire... Dans cette petite région, il y a très peu d'habitants qui étaient 100% rural ou quasiment. Des violons sont arrivés dans cette région par l'Italie, je crois, et certains de ces violoneux ont construit un répertoire à partir d'influences diverses. Mais donc c'est un répertoire tout à fait unique.
Pour le violon, effectivement.
Voilà, pour le violon, c'est-à-dire vraiment... qu'il n'y a pas tellement beaucoup d'autres instruments. Il y avait énormément de parmi les musiciens, il y avait principalement des violoneux. Mais ça, je crois que un précédent invité a dû vous en parler, François Brugnot
et Basile Brémo.
Et Basile Brémo aussi.
Voilà, exactement. Et effectivement, c'est une région qui est intéressante puisque ce répertoire est dédié au violon. Et d'ailleurs, quand on le joue, hein, je pense que vous n'allez pas me contredire, ça se sent dans l'archet que c'est fait pour.
Voilà, c'est ça. Ça tombe bien sous les doigts et sous l'archet, oui.
Alors, est-ce que vous avez un autre morceau de ce terroir de l'Artense à nous jouer ?
Oui, bien sûr. Et là, je voudrais... j'ai une pensée aussi pour... François Brugnot, qui a été mon premier, la personne qui m'a un peu plus initié que mon père à ces musiques-là, puisque l'été 93, je crois, je suis allé faire un stage avec lui, et voilà, ça a été vraiment un très bon moment, et voilà.
Alors on envoie un coucou à François Brugnot.
C'est ça.
Vous allez nous jouer quel morceau ?
Je vais vous jouer une bourrée coulée qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait on joue l'archer fait toujours le même mouvement, c'est-à-dire un coup d'archer par temps, et ça donne une façon de jouer la bourrée assez particulière. Voilà, bourrée coulée d'Alfred Mouret.
Alfred Mouret, interprété par Guillaume Schilling et moi-même.
Voilà, merci de m'avoir accompagné.
Ouais, merci de m'avoir invité. J'aime beaucoup ce style de bourré-coulé. C'est vraiment très agréable de faire un coup d'archer par temps. Et puis, vous aviez dit justement au début, je crois que c'est intéressant de le préciser pour nos auditeurs et auditrices, que vous avez fait un appel.
Oui. L'appel, c'est pour donner signal d'abord aux danseurs que la bourrée va commencer, qu'ils peuvent partir sur le premier temps tous ensemble, et aux collègues musiciens aussi. Voilà.
Oui, c'est bien, c'est le 3-4, quoi.
C'est ça.
Je crois que c'était Coluche qui disait 3-4. Oh, il a dit 3-4, il commence tout seul, il dit 3-4. C'était la grosse blague que j'aime toujours refaire à chaque fois. C'est un comique de répétition. Effectivement, il faut que les musiciens partent ensemble et cet appel, ça peut être divers en bourré. Il y a le tagadagada, twin 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 aussi qui marche bien. Alors, dans ce répertoire de l'Artense, vous avez Avec, vous avez dit que vous l'avez rencontré en 95. Du coup, vous avez...
93, mais oui.
Ouais, okay. Pff, oui,
c'était vu d'ici, c'est à peu près la même
époque. Le dernier millénaire, on est d'accord. Du coup, est-ce que vous avez creusé ce répertoire? Comment, enfin, est-ce que vous avez fait des recherches dessus? Est-ce que...
Alors, effectivement, je me suis intéressé à ce répertoire, mais je ne suis pas, moi... Je suis pas quelqu'un qui est très... qui est passionné par, non plus par toutes ces histoires, contrairement à, par exemple, un copain qui s'appelle Pierre Raymond, là, avec qui je joue régulièrement à Aurillac, hein, qui est prof à l'école occitane, et qui, lui, voilà, lui joue aussi à la manière de l'Artense, qui est vraiment les coups de doigt. Moi, je suis intéressé par tout type de musique, donc c'est vrai que je mélange un peu tout. Je suis pas très... Je suis pas très traditionnaliste et bon, enfin.
Vous êtes
non,
pas un
traditionnaliste, chercheur. C'est une connotation. Mais voilà, je suis pas très
un chercheur qui ouais, va faire que ça sur il va développer une thèse.
C'est ça, voilà.
D'accord.
Voilà, je préfère m'intéresser à plus de répertoire et du coup malheureusement manque de temps ou de passion ou quoi. Je ne peux pas les approfondir comme
il y en a
comme
qui le font.
Oui,
il y
voilà,
en a qui le font. Moi, j'aime bien aussi parce qu'il y a
bien
des
sûr.
Gens qui approfondissent. Je suis ravie qu'ils le fassent. On a déjà cité Basile Brémaud et certainement François Brodiot. Et je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup écouter ce qu'ils ont trouvé.
Oui, c'est ça.
Des gens qui partent. Donc, on a parlé du coup d'archer, du coup de doigt, il y a le son, il y a vraiment un travail sur ce son-là qui est recherché, etc. Et qui est très spécifique, du coup, ça fait partie des cultures musicales de chaque région.
Oui, alors c'est sûr que c'est très intéressant, et moi je pioche un peu partout, parce que par exemple, quand je joue de la musique klezmer, quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, il dirait que j'ai un jeu qui n'est pas du tout... orthodoxe, quoi, voilà, donc...
Vous jouez la musique klezmer avec l'accent français?
Oui, c'est ça, puis avec un peu de, voilà, un peu de ritournelle auvergnate ou irlandaise.
Alors, j'ai vu aussi également, ça se voit en studio, ça se voit pas à la radio, que vous tenez votre violon sur le bras.
Eh oui, au grand dam de ma maman, hein, que je salue. oui, parce que, en fait, je sais pas, à l'adolescence, on a le corps un peu qui est un peu mou et j'ai eu tendance à ce que le bras baisse un peu et ma prof de violon me disait chaque fois de le remonter. Et en fait, je crois que naturellement, la position qui me convient le mieux est de mettre le violon un peu plus bas pour déjà libérer toute la partie haute du corps. Ça permet aussi de voir mieux les danseurs, de tourner la tête pour voir les autres musiciens. Moi, ça me convient mieux. Et en plus, comme j'aime jouer fort, enfin, c'est pas que j'aime jouer, enfin, si, on peut dire que j'aime jouer fort, mais j'aime surtout accompagner. Donc, pour accompagner 5 autres violons ou des cabrets, tout ça, il faut quand même avoir un volume un peu plus important. Et donc, cette position me permet d'appuyer plus fort
sur l'archer,
que si je l'avais au cou. Par contre, l'inconvénient de cette position-là, c'est que je ne peux pas bouger le... Je peux pas tellement bouger la main sur le manche, c'est-à-dire que pour les auditeurs qui ne le savent pas, les violonistes peuvent monter leur main sur le manche, un peu comme les guitaristes, et pour pouvoir faire d'autres positions, des notes plus aiguës, des notes plus pratiques. Et ça, moi, je ne peux pas le faire, voilà. Mais bon, chacun son truc, hein, voilà.
Mais c'est une position qui se retrouve sur d'autres violoneux.
Oui, oui, exactement.
C'est vraiment une position qui a l'air d'être confortable. Je dis qui a l'air parce que moi, je suis plus petite que vous, hein, parce que vous êtes quand même très grand. Du coup, j'ai un bras moins long. Et du coup, j'ai essayé cette position et ça ne me va pas parce que c'est trop, ça ne me convient pas.
Oui,
j'ai vu beaucoup de violoneux le faire.
C'est vrai que des fois c'est pratique d'avoir le bras long, mais
oui.
Mais alors non seulement d'autres violoneux, mais dans d'autres répertoires, le violon est positionné plus bas, notamment dans la musique hongroise, les bratsch qu'on appelle ces sortes d'alto d'accompagnement sont même encore plus bas que moi je le porte, quoi, voilà.
C'est-à-dire qu'on a la main collée, finalement, voilà, on n'a plus accès qu'à une seule position, voilà. Puisqu'on a la main collée sur le manche et que la main supporte le violon. Alors que quand on met le violon au cou, on peut porter le violon par le cou et du coup détacher la main. Et du coup, ça correspond aussi à un type de répertoire, effectivement, parce que, effectivement, en musique traditionnelle, on n'a pas besoin de beaucoup démancher, comme on dit les violonistes, hein, donc, c'est-à-dire ouais, c'est de bouger la main avec la première position, hein, c'est-à-dire celle que l'on a. On arrive à faire ce qu'on veut, puisque c'est plutôt basé sur de la double corde, sur du rythme. C'est quand même... Notre musique est quand même assez basée sur le rythme de la danse. Et puis aussi...
Oui, puis les mélodies sont calibrées aussi pour rester en première position, c'est-à-dire là, voilà.
Sauf Alfred Mouret qui faisait des...
Alors voilà, certaines...
Alors lui, il faisait... Oui, oui. Non, c'était Joseph Perrier,
et puis,
je crois.
Et puis des moments... et puis des nouvelles... maintenant, C'est vrai que dans les compositions de... En musique trad, parce que, enfin, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, mais voilà, là, on peut trouver des mélodies qui sont un peu plus horizontales au niveau instrumentales, c'est-à-dire qu'elles peuvent être jouées par des accordéons, des trompettes ou des violons, voilà. Donc, les mélodies sont moins calibrées pour l'instrument particulièrement.
Alors, on parlera de ça.
Oui.
Tout de suite, mais la semaine prochaine.
Ah oui, d'accord, mais volontiers.
Puisqu'on arrive à la fin de cette première émission. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous renvoie dans vos confins avec vos trois territoires.
Voilà.
Et puis, vous reviendrez la semaine prochaine avec vous.
Le rendez-vous est pris.
Très bien, merci. Merci à Armand.